Albert Sim, le bracelet. Bien que marié à une jeune et charmante femme, Paul Holger, le maître verrier des Islettes, ne manquait jamais, chaque fois que ses affaires l'appelaient à Paris, c'est-à-dire tous les 4 ou 5 mois, d'aller offrir ses hommages à Madame Léa de Mortagne, une mûre et hospitalière habitante de la rue de Moscou. Et chaque fois, en reconnaissant du bon accueil qui lui était fait, il avait soin de laisser la noble dame quelques gentils souvenirs, pendant d'oreilles, boutons de diamants, bagues ou médaillons. Madame de Mortagne se montrait d'autant plus sensible à ses gracieusetés qu'elle raffolait de tous les bijoux et professait pour tout ce qui est lucre et bénéfice en général un culte incomparablement plus ardent que celui qu'elle rendait à la vertu. Elle était même célèbre dans son monde par sa rapacité, si célèbre que plusieurs de ses bonnes amies, la voyant presque chaque soir rôder aux alentours de la petite bourse, prétendaient qu'elle était de race juive et le soutenaient avec obstination. Il n'en était rien. Léa avait été solennellement baptisée 38 ans auparavant dans l'église de Mortagne, sa ville natale, et s'appelait de son vrai nom Mélanie Cochenard. À différentes reprises, Léa avait remarqué, dans la vitrine d'un bijoutier du boulevard des Italiens, un bracelet en or mat garni de 3 superbes saphirs sertis de brillants, et peu à peu elle s'était laissée fasciner par ce bijou, s'en était entichée. Mais comment l'avoir ? « Oh, lorsque Paul viendra, me rumina-t-elle, il faudra que je tâche de me faire payer ça. » Paul Holger arriva, et Léa n'eut rien de plus précis que de l'amener devant la montre du bijoutier et le convier à partager son admiration. Très beau, en effet, d'un goût, d'une élégance. Et les saphirs, quel éclat! Vois le joli bleu, un peu pas trop foncé, à la fois limpide et velouté. Oh, bleu magnifique! Oh, certes! S'écria Paul seulement. Oui, c'est le prix. Une microscopique étiquette, fichée dans l'écrin où reposait le bijou, portait le chiffre 3 200. Et Paul Holger ne mettait guère d'habitude plus de 1200 ou 1500 francs à ses témoignages de reconnaissance envers Madame de Mortagne. On était donc loin du compte. « Mais nous pourrions toujours entrer, insinua Léa, examiner de près. Il est ravissant. Vois donc quel feu! Nous causerions avec le commis ou le patron. Quelquefois les prix annoncés ne sont pas exacts, peut-être aussi consentirait-on un rabais. » Soit, entrons, dit Paul. Le prix marqué était toujours un prix fixe, impossible de rien rabattre. L'usage de la maison s'y opposait. Cependant, pour être agréable à madame, ne pas refuser une affaire, et à titre tout à fait exceptionnel, on laisserait le bracelet à 3 000 francs, chiffre rond. C'était encore bien plus que ne voulait payer Paul. Mais nous verrons, nous réfléchirons, murmura-t-il, en faisant mine de s'en aller. Mais monsieur pourrait voir d'autres bracelets. Nous en avons d'autres, très avantageux, des modèles tout nouveaux. Combien monsieur pensait-il mettre, dans quel prix?
Bon, je ne pensais pas dépasser 1800 francs, 2000 francs.
Oh, j'ai quelque chose qui plairait sûrement. Non, c'est ce bracelet que nous désirons et non un autre. Du moins que vous ne pouvez pas. Le marchand lâche se prolongea encore quelques instants. Puis, devant l'obstination du négociant et persuadé de l'inutilité de leurs efforts, Paul et sa compagne se retirèrent. 2 heures plus tard, Léa réapparaissait dans le magasin. « Vous serez égal, n'est-ce pas ?» dit-elle au bijoutier. « De laisser le bracelet à 2 000 francs, du moment où la différence vous serait probablement préalablement payée. Tenez, la voici. Voici 1 000 francs, dit-elle en lui remettant un billet de banque. La personne reviendra ce soir ou demain. »
« Oh, dans ces conditions, madame, parfaitement, ça va tout seul. Dès qu'on se présentera, qu'on reparlera du prix, au lieu de maintenir mon chiffre, je le baisserai peu à peu. Vous pouvez vous en rapporter à moi, madame. Je tiens à ce bracelet, mais beaucoup, beaucoup. Je serais désespéré de laisser échapper. » Le fait est qu'il est vraiment ravissant. N'ayez crainte, madame, je vais le mettre de côté. Madame est certaine qu'on reviendra bientôt. Oh, ce soir même, demain au plus tard, absolument certaine. Effectivement, Léa imite une telle insistance, tant d'adresse et d'astuce. Elle sut si bien manœuvrer que Paul Holger lui promit de retourner chez le bijoutier et d'essayer de le rendre plus accommodant. C'est tout ce qu'elle demandait. La soirée était trop avancée pour que Paul remplisse sur-le-champ sa promesse. Bon, le magasin doit être fermé à cette heure-ci. Mais demain matin, sans faute, j'y passerai, ma petite chatte. Le lendemain, la matinée s'écoula sans que Léa vît rien arriver. À 3 heures de l'après-midi, elle n'avait encore rien reçu. Dévorée d'impatience, saisie peut-être bien aussi d'un commencement d'inquiétude, d'une naissante panique, elle courut chez le bijoutier. Madame est au comble de ses voeux. On est venu? Ce matin même, oui, madame, et affaire a été conclue, ainsi que vous le présumiez, moyennant 2 000 francs. Léa poussa un soupir d'allègement et de joie, et regagna bien vite sa demeure, convaincue que Paul, ou tout au moins le bracelet, l'y attendait. Personne, rien. L'impatience et l'anxiété la reprirent et l'aiguillonnèrent de plus belle. Non, impossible de résister. C'était trop languir. L'hôtel où Paul Auger descendait d'ordinaire était situé sur la place de la Madeleine. C'était une espèce de maison de famille, family hotel, fréquentée par de paisibles provinciaux et des étrangers économes. Léa était allée déjà une fois et, avec sa mise simple, sa toilette sérieuse et sombre, pouvait s'y présenter de souvent de nouveau sans crainte de froisser Paul, sans inconvénient aucun. Monsieur Alger, demanda-t-elle à la caissière ou gérante, une quadragénaire haute en couleur, la mine effleurée et joviale, qui était assise devant un petit bureau d'acajou et en train de compulser des factures. Ah, monsieur Alger est parti, madame. Et à quelle heure pensez-vous qu'il rentre? Oh, mais madame, puisqu'il n'est plus ici. S'il est absent, sorti. Non, parti, madame. Monsieur Holger a quitté Paris ce matin. Ce matin? Oui, il a dû prendre un train vers midi. Et pour retourner chez lui, aux Islettes? Oui, madame, c'est cela même, aux Islettes. Êtes-vous sûr? Fit Léa, qui se refusait encore à croire à une telle catastrophe. Mais c'est monsieur Holger qui vous l'a annoncé de sa propre bouche, répliqua la caissière. Et pendant que le garçon descendait la valise, il a même montré un bracelet qu'il venait d'acheter, un très joli bracelet orné de saphir. Il m'a demandé comment je le trouvais. Je me réjouis de la surprise que je vais faire ce soir à ma femme, s'est-il écrié. Madame Holger vient justement de me rendre père. Ce sera son cadeau de relevailles. J'avais déjà aperçu ce bracelet. Je le guignais. Et puis pas cher, vous savez, pas cher du tout. Il y a des maris, ajouta-t-il, avec son enjouement habituel, assez pervers pour offrir de pareils présents aux petites dames.